crime. Où Guillaume amène d'abord Salvatore et ensuite le Célérier à avouer leur passé. Séverin retrouve les verres volés, Nicolas apporte les neufs, et Guillaume, avec six yeux, s'en va déchiffrer le manuscrit de Venantius. Nous allions sortir quand entra Malachi. Il parut contrarié de notre présence et fit mine de se retirer. De l'intérieur, Séverin le vit et dit « Tu me cherchais ? C'est pour… » Il s'interrompit en nous regardant. Malachi lui fit un signe imperceptible, comme pour dire « Nous en parlerons après ». Nous allions sortir, il entrait, nous nous trouvions tous les trois dans l'embrasure de la porte. Malachi dit qu'il cherchait le frère herboriste parce qu'il avait mal à la tête. « Ce doit être l'air confiné de la bibliothèque, » lui dit Guillaume d'un ton de prévenante compréhension. « Vous devriez faire des fumigations. » Malachi eut un mouvement de lèvres comme s'il voulait encore parler, puis il renonça, baissa la tête et entra, tandis que nous nous éloignions. « Qu'est-ce qu'il va faire chez Séverin ?» demandai-je. « Azzo, » me dit avec impatience le maître, « apprends à raisonner avec ta tête. » Puis il changea de discours. « Nous devons interroger plusieurs personnes à présent. Du moins, » ajouta-t-il, alors que du regard il explorait le plateau, « tant qu'elles sont encore en vie. À propos, dorénavant faisons attention à ce que nous mangeons et buvons. Prends toujours tes aliments dans le plat commun et tes boissons à la cruche où d'autres se sont déjà servis. Après Béranger, nous sommes ceux qui en savons le plus, outre naturellement l'assassin. Mais qui voulez-vous interroger à présent ? Azzo, dit Guillaume. Tu auras observé qu'ici les choses les plus intéressantes se passent la nuit. La nuit, on meurt. La nuit, on rôde dans le scriptorium. La nuit, on introduit des femmes dans l'enceinte. Nous avons une abbaye diurne et une abbaye nocturne. Et la nocturne paraît malheureusement plus intéressante que la diurne. Partant, toute personne qui circule la nuit nous intéresse, y compris, par exemple, l'homme que tu as vu hier soir avec la jeune fille. Il est fort possible que l'histoire de la fille n'ait rien à voir avec celle des poisons, et il est fort possible que si. De toute façon, voilà que passe là-bas quelqu'un qui était ou bien l'homme de la nuit d'hier, ou bien qui sait qui c'était. Il pointa le doigt vers Salvatore, qui nous avait vus à son tour. Je remarquais une légère hésitation dans son pas, comme si, désirant nous éviter, il s'était arrêté pour rebrousser chemin. L'espace d'un instant. Évidemment, il s'était rendu compte qu'il ne pouvait plus échapper à la rencontre, et il reprit sa marche. Il se tourna vers nous avec un large sourire et un benedicite plutôt onctueux. Mon maître le laissa à peine finir et lui parla d'un ton brusque. « Tu sais que demain arrive ici l'Inquisition ?» lui demanda-t-il. Salvatore n'eut pas l'air content. Avec un filet de voix, il demanda
« Et moi ?»«
Et toi, tu feras bien de dire la vérité à moi, qui suis ton ami et frère mineur comme tu l'as été, plutôt que de la dire demain aux autres que tu connais très bien. » Entrepris aussi brusquement, Salvatore eut l'air d'abandonner toute résistance. Il regarda Guillaume d'un air soumis, comme pour lui faire comprendre qu'il était prêt à dire ce qu'il lui aurait demandé. Cette nuit, il y avait une femme dans les cuisines. Qui était avec elle ?
« Oh, femelle qui se vend comme aux marchandises, non peut oncle être bonne ni avoir courtoisie !»
récita Salvatore. « Je ne veux pas savoir si c'était une brave fille, je veux savoir qui était avec elle. »«
Déou ! Combien sont les femmes de méchantes rusées ? Elle pense sûre et nouille comme l'homme trompé. »
Guillaume le saisit brusquement à la poitrine. « Qui était avec elle, toi ou le Célérier ?» Salvatore comprit qu'il ne pouvait plus continuer à mentir. Il commença à raconter une étrange histoire dont nous apprîmes non sans peine que pour complaire au Célérier, il le pourvoyait de filles du village en les faisant entrer de nuit dans l'enceinte par des passages qu'il ne voulut pas nous indiquer. Mais il jura, à qui mieux, qu'il agissait par pur bon cœur en laissant transparaître un regret comique du fait qu'il ne trouvait pas moyen d'en tirer plaisir lui aussi, en sorte que la fille, après avoir contenté le Célérier, lui donna quelque chose aussi. Il jargonna tout cela avec de visqueux sourires lubriques et des clins d'yeux comme pour laisser entendre qu'il parlait à des hommes faits de chair, accoutumés aux mêmes pratiques. Et il me regardait par en dessous. Guillaume décida, au point où nous en étions, de tenter le tout pour le tout. Il lui demanda à brûle-pourpoint « Tu as connu Remigio avant ou après avoir été avec Dolcino ?» Salvatore s'agenouilla à ses pieds en le priant, au milieu de pleurs abondants, de ne pas vouloir sa perte, de le sauver de l'Inquisition. Guillaume lui jura solennellement de ne rien dire à personne de ce qu'il apprendrait, et Salvatore n'hésita pas à mettre le scélérier à notre merci. Ils s'étaient connus à la paroi chauve, l'un et l'autre de la bande de Dolcino. Avec le scélérier, il s'était enfui pour entrer dans le couvent de Casal. Avec lui, il s'était transféré chez les clunistes. Il bredouillait des implorations de pardon, et il était clair qu'on n'aurait pas pu en tirer davantage. Guillaume décida qu'il valait la peine de prendre Remigio par surprise et quitta Salvatore qui courut se réfugier dans l'église. Le scélérier se trouvait du côté opposé de l'abbaye, devant les greniers, en train de négocier avec quelques villageois de la vallée. Il nous regarda non sans appréhension et fit son possible pour se montrer très affairé, mais Guillaume insista pour lui parler. Jusqu'à présent, nous n'avions eu avec lui que de rares contacts. Il avait été courtois avec nous, nous avec lui. Ce matin-là, Guillaume s'adressa à lui comme il eût fait avec un frère de son ordre. Le scélérier parut embarrassé de cette familiarité et répondit d'abord avec beaucoup de prudence. « En raison de ton office, tu te trouves évidemment contraint de circuler dans l'abbaye, même quand les autres dorment, j'imagine, » dit Guillaume. « Cela dépend, » répondit Remigio. « Il y a parfois de petits travaux à expédier et je dois y consacrer quelques heures de sommeil. » Dans ces cas-là, il ne t'est jamais rien arrivé qui puisse nous mettre sur la piste de quelqu'un qui rôde, sans avoir tes raisons, entre les cuisines et la bibliothèque. Si j'avais vu quelque chose, je l'aurais dit à l'abbé. Juste, convint Guillaume. Et il changea brusquement de discours. Le village dans la vallée n'est pas très riche, n'est-ce pas? Oui et non, répondit Remigio. Des prébendiers y habitent, qui dépendent de l'abbaye, et eux, ils partagent notre richesse dans les années grasses. Par exemple, le jour de la Saint-Jean, ils ont reçu 12 boisseaux de malt, un cheval, 7 bœufs, un taureau, 4 génisses, 5 veaux, 20 brebis, 15 cochons, 50 poulets et 17 ruches, et puis 20 porcs fumés, 27 formes de saindoux, une demi-mesure de miel, 3 mesures de savon, un filet de pêcheur. Ça va, interrompit Guillaume. Mais tu admettras que tout cela ne me dit pas encore quelle est la situation dans le village, lesquels de ses habitants sont les prébendiers de l'abbaye et combien de terres doit cultiver pour son propre compte qui n'est pas prébendier. Oh, pour ça, dit Remigio, une famille normale peut posséder là-bas jusqu'à 50 tables de terrain. Combien mesure une table? Naturellement, 4 demi-perches carrées. Des perches carrées? Cela fait combien? 36 pieds pour 4 demi-perches, ou si tu veux, 400 perches linéaires font 1000 pieds montés. Et calcule qu'une famille dans les terres vers le nord peut cultiver des olives pour au moins un demi-sac d'huile. Un demi-sac? Oui, un sac fait 5 émines et une émine fait 8 coupes. J'ai compris, dit mon maître découragé. Chaque pays a ses mesures. Vous, par exemple, le vin, vous le mesurez en pichet. Ou en sautier? 6 sautiers, 48 pintes et 10 pintes, 5 quartes. Si tu veux, un sautier fait 8 pintes ou 4 quartes. Je crois avoir les idées claires, dit Guillaume résigné. Désires-tu savoir autre chose? Demanda Remigio d'un ton qui me parut de défi. Oui. Je te demandais la façon dont il vivait dans la vallée, parce que je méditais aujourd'hui dans la bibliothèque sur les sermons aux femmes de Humbert de Roman, et en particulier sur ce chapitre « Ad mulieres pauperes in willulis », où il dit que ces dernières, plus que d'autres, sont tentées par les péchés de la chair à cause de leur misère, et sagement, il dit qu'elles « peccant enim mortaliter cum peccant cum quocumque laico mortalius vero quando cum clerico in sacris ordinibus constituto Maxime vero quando cum religioso mundo mortuo. Tu sais mieux que moi que, fût-ce en des lieux saints comme les abbayes, les tentations du démon méridien ne manquent jamais. Je me demandais si, dans tes contacts avec les gens du village, tu étais venu à savoir que des moines, à Dieu ne plaise, aient poussé des jeunes filles à la fornication. Encore que mon maître dit ces choses d'un ton presque distrait, le lecteur aura compris à quel point ces paroles troublaient le pauvre Célérier. Je ne saurais dire s'il pâlit, mais je dirais que je m'attendais tellement à ce qu'il pâlit que je le vis pâlir. Tu me demandes des choses que, si je les savais, j'aurais déjà dites à l'abbé, répondit-il humblement. En tout cas, si, comme je l'imagine, ces informations servent à ton enquête, je ne te cacherai rien de ce que je pourrais apprendre. Et même, maintenant que tu m'y fais penser, à propos de ta première question, la nuit où mourut le pauvre Adelme, je circulais dans la cour, tu sais, une histoire de poule, des bruits que j'avais recueillis sur un certain maréchal Ferrand qui, de nuit, allait marauder dans le poulailler. Eh bien, cette nuit-là, il me fut donné de voir, de loin, je ne pourrais pas en jurer, Béranger, qui regagnait le dortoir en longeant le cœur, comme s'il venait de l'édifice. Je ne m'en étonnais pas, car parmi les moines, Béranger faisait murmurer depuis beau temps, tu l'as peut-être su. Non, dis-moi. Bon, comment dire, on soupçonnait Béranger de nourrir des passions qui ne conviennent pas à un moine. Tu veux sans doute me suggérer qu'il avait des rapports avec des filles du village, comme je te le demandais? Le Célérier toussa, embarrassé, et il eut un sourire plutôt hideux. Oh non, des passions encore plus inconvenantes. Parce qu'un moine qui prend plaisir charnel avec des jeunes filles du village cultive au contraire des passions en quelque sorte convenables? Je n'ai pas dit cela, mais ce n'est pas moi qui t'apprendrai qu'il y a une hiérarchie dans la dépravation comme dans la vertu. La chair peut être tentée selon nature et contre nature. Tu veux me dire que Béranger était mû par des désirs charnels pour des personnes de son sexe? Je dis ce qu'on murmurait sur son compte. Je te communiquais ces choses comme preuve de ma sincérité et de ma bonne volonté. Et moi, je te remercie. Et je conviens avec toi que le péché de sodomie est bien pire que d'autres formes de luxure sur lesquelles, franchement, je ne suis pas porté à enquêter. Des misères, quand bien même elles s'avéreraient, dit le Célérier avec philosophie. Des misères, Remigio. Nous sommes tous des pécheurs. Je ne chercherai jamais la menue paille dans l'œil de mon frère, tant je crains d'avoir une énorme poutre dans le mien. Mais je te saurai gré de toutes les poutres dont tu voudras bien me parler à l'avenir. Ainsi, nous nous entretiendrons sur de grands et robustes troncs de bois, et nous laisserons les pailles voltiger dans les airs. Tu disais que ça fait combien, 4 demi-perches? 36 pieds carrés. Mais ne t'inquiète pas. Quand tu voudras savoir quelque chose de précis, tu viendras me trouver. Compte sur moi, comme sur un ami fidèle. « Et tel je te considère !» dit Guillaume avec chaleur. Hubertin m'a dit qu'autrefois tu appartenais au même ordre que moi. Je ne trahirai jamais un ancien frère, surtout ces jours-ci, où l'on attend l'arrivée d'une légation pontificale conduite par un grand inquisiteur, célèbre pour avoir brûlé tant de dolciniens. Tu disais que 4 demi-perches font 36 pieds carrés ?